Alors, on arrive à la conclusion de cette lettre de Paul. Et pour résumer l'ensemble de ces exhortations, de ces encouragements qu'il vient de leur donner, dans les chapitres 4 et 5 notamment, Paul termine avec une image, une métaphore prolongée, tirée du combat, et notamment l'image de l'armure du soldat romain. Paul a passé beaucoup de temps en présence de ces soldats romains, souvent prisonniers, alors il avait largement le temps d'étudier, de contempler leur tenue, et il en fait une illustration pour nous aider dans la vie chrétienne. Alors, est-ce que l'image est toujours d'actualité? Déjà, effectivement, ça ne marche pas de moderniser l'image en disant « prenez des missiles nucléaires de la vérité et la tenue camouflage de la foi et pourquoi pas des rafales et des mirages de la vérité ». Ça ne va pas le faire, il va falloir rester avec l'armure romaine. Mais heureusement, grâce à Astérix et Obélix, les Français connaissent bien l'armure romaine. Mais plus compliqué que cela, je dirais, est-ce que ce langage est compatible avec la foi? Est-ce que c'est utile de parler ainsi? Si on a appris une chose en France au cours des siècles, et aujourd'hui plus que jamais, c'est qu'il ne faut pas mélanger guerre et religion. J'ai grandi en chantant ces beaux cantiques, comme nous venons de chanter, « Debout, sainte cohorte ». Et si vous regardez dans les recueils d'autrefois, il y a toujours une grande partie dédiée à des chants tirés de l'image du combat. L'image se prête très bien au chant, c'est entraînant. Mais dans le contexte de nos jours, vous pouvez remarquer qu'on a beaucoup moins de cantiques modernes qui appellent aux armes, ou qui prennent l'image du soldat chrétien, puisqu'on est un peu embêté par les circonstances autour de nous, et ça te fait tout de suite penser aux croisades et aux djihads, et on sait qu'il faut s'en éloigner de ces choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette image ici que Paul nous laisse sur l'armure, le combat, la lutte, la guerre? Déjà, je pense qu'on peut reconnaître qu'il est commun de parler d'un combat et de la lutte pour défendre une cause. Quelle que soit la cause, beaucoup prennent le langage de la lutte et du combat pour décrire leurs activités. On parle de la lutte contre le cancer, c'est une bonne chose. On parle d'un combat politique. Dans ces images, ils sont parlants, mais c'est sans évoquer quelque chose de sanglant ou de violent, physiquement. Et de la même manière, Paul va utiliser l'armure romaine, la lutte, pour enseigner des vérités spirituelles, sans cautionner forcément tout ce qu'a fait l'armée romaine dans le monde, même envers lui. Ils l'ont arrêté, ils l'ont emprisonné, ils voulaient arrêter la propagation de la foi, et c'était des soldats romains avec l'armure romaine qui a permis certaines choses. Paul n'est pas en train d'encourager cette démarche physique, mais il en tire une vérité spirituelle. Et ça, c'est important à retenir pour nous. En plus, on pourrait dire, n'est-ce pas une image un peu masculine, un peu guerrière? Les soldats, les gladiateurs, les chevaliers, en général ce sont des hommes, et puis mesdames, vous allez sortir d'ici, oui, je vais être armé jusqu'aux dents et pouvoir combattre. Peut-être ça vous parle moins. C'est vrai que ce sont mes garçons, je vois, qui transforment tous les bouts de bâton en épée et tous les morceaux de carton en bouclier chez moi. Moins les filles. Mais pour comprendre la vie chrétienne, on a besoin d'un ensemble, d'une panoplie d'images, des images féminines, des images masculines, des images tirées de toutes sortes de champs de la vie, pour comprendre la volonté de Dieu. Dans le chapitre précédent, par exemple, en chapitre 5, Paul a dit que l'Église est comme une épouse. L'Église, dans sa collectivité, l'Église composée d'hommes et de femmes, est comme une épouse, ce qui est une image très féminine. Et nous tous, hommes et femmes, peuvent apprendre quelque chose de cette image d'épouse avec Jésus-Christ, qui est le mari, le chef, et qui nous conduit, qui pourvoit nos besoins, qui nous protège comme un bon mari. Mais ici, ce sera l'image tirée de la lutte, du combat, de la guerre, mais il y a quelque chose pour tout le monde, pour vivre notre vie chrétienne. Nous apprenons dans ce passage qu'être chrétien, c'est être engagé dans une lutte, dans un combat, dans une guerre. le chrétien sera attaqué, c'est sûr, mais la promesse de ce passage, c'est qu'il a tous les moyens à sa disposition pour se défendre, pour résister, pour tenir ferme dans la foi, dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu. Le chrétien sera attaqué, mais il a tous les moyens à sa disposition pour résister et tenir bon, tenir ferme. Alors, pour comprendre cette guerre spirituelle, ce combat spirituel, pour vivre notre foi, il faut d'abord connaître son ennemi, ensuite connaître son équipement, et enfin connaître l'issue du combat. C'est ainsi que nous allons aborder ce texte. Tout d'abord, il faut connaître son ennemi, ça c'est essentiel, dans une lutte, dans un combat. Alors, on nous précise ici que l'ennemi, c'est les diables, le diable, et ses ruses, le malin. On dit bien en verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, on peut savoir d'office que tout ce qui a chair et sang n'est pas l'ennemi. Et cette vérité est très importante pour ne pas se tromper d'ennemi. Si l'ennemi, ce n'est pas ce qui a de la chair et du sang, ça veut dire que l'ennemi, ce ne sont pas des personnes d'autres croyances. C'est évident. L'ennemi, ce n'est pas le collègue désagréable au boulot. L'ennemi, ce sont pas des frères et des sœurs de l'assemblée qui vous agacent, qui vous critiquent, qui agissent comme des écharpes dans votre chair. Ça, c'est pas l'ennemi. L'ennemi n'est même pas votre conjoint. Il est bon de rappeler que l'ennemi n'a pas chair et sang. L'ennemi est un ennemi spirituel, un ennemi invisible, et ce sera toujours le cas. Bien sûr, l'ennemi peut utiliser des circonstances dans la vie, des personnes, des idées, pour vous tenter, pour miner votre foi. Et même si la difficulté peut sembler venir des humains, il faut toujours se rappeler que le vrai enjeu est un enjeu spirituel. Et que le diable cherche par ses moyens, peut-être par ses personnes, une porte d'entrée pour vous faire chuter dans votre foi. Donc, puisque la lutte n'est pas contre la chair et le sang, ce ne serait pas des armes physiques. Or, c'est vrai que si une armée envahit la France, il peut être juste de défendre son pays, sa patrie, sa famille, ses libertés, avec des armes, des vraies armes. Et on connaît l'histoire de la France, bataille de Toulouse, bataille de Poitiers. Mais la justification de ces combats physiques ne vient pas d'Éphésiens chapitre 6. Et ces combats ne sont pas faits au nom du témoignage chrétien. Ces combats-là, ces batailles-là, sont faits au nom des lois constitutionnelles, ou bien de la patrie, ou bien des raisons de liberté. Le métier du soldat n'est pas interdit dans la Bible, même plutôt honoré à plusieurs fois. Donc, il peut être nécessaire de défendre son pays physiquement. Les gouvernements existent pour ça, mais nous ne voulons pas mélanger avec la foi, le combat spirituel dont il est question ici. C'est pour ça qu'il est hors question de prendre l'épée pour propager la foi et pour défendre Dieu comme s'il avait besoin d'être défendu. L'ennemi ne sera jamais vraiment de la chair et du sang. Alors, si on reconnaît que l'ennemi est un ennemi spirituel invisible, en quoi consiste la lutte, comme il dit, ou le combat spirituel contre un tel ennemi? Et c'est là où la spéculation et l'imagination des évangéliques a été sans frein dans ce domaine, en essayant d'imaginer à quoi pourrait ressembler un combat spirituel. Il y a quelques années, plusieurs romans chrétiens ont été publiés. Vous avez peut-être lu ou connu, notamment le premier, « Ce monde de ténèbres » d'un certain Franck Peretti. Des romans qui ont raconté une belle histoire, une histoire passionnante, mais des romans qui ont présenté une vision du combat spirituel, notamment d'après une certaine théologie pentecôtiste. Et il imaginait, dans son histoire, il imagine qu'il existe un combat constant entre des anges et des démons qui se déroule en permanence autour de nous, que nous ne voyons pas, et que donc la prière des chrétiens serait la manière d'influencer l'issue de ces combats entre anges et démons. Et en stipulant qu'il y avait des esprits territoriaux ou régionaux qu'il fallait gérer, et qui pouvait embêter telle église qui voulait avancer ou évangéliser ou vivre sa foi. Beaucoup de ces idées sont tirées de quelques versets, quelques passages en Daniel, dans le livre de Daniel, et à partir de là, il a fait tout un roman. Curieusement, ces romans sont devenus un peu des manuels officiels parmi les évangéliques du combat spirituel. Mais nous estimons que c'est un peu dangereux à partir de quelques versets de Daniel. Daniel avait quand même un rôle particulier à jouer en tant que prophète. Et des passages où les questions de ces guerres sont des passages très apocalyptiques, très prophétiques. Il serait un peu dangereux de faire une règle générale pour notre vie. Et finalement, tout ça revient un peu à la conception qu'on peut trouver dans d'autres religions, où des anges et des démons, chacun l'un sur chaque épaule, qui suggèrent, qui chuchotent des idées. On trouve ça un peu dans l'islam, avec les djinns, le bon ange, le mauvais ange, qui est là, en train d'essayer de vous influencer, de chuchoter à l'oreille des suggestions. Mais tout cela est finalement étrange à la Bible, et Paul n'en parle pas dans ses versets. Donc attention à la spéculation et à l'imagination de ce qui peut se passer dans le monde invisible. Il faut se rappeler que le diable n'est ni omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent, contrairement à Dieu. Peut-être pour mieux comprendre ça, c'est penser à la manière que nous parlons d'un ennemi. Par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, on parlait de la résistance contre Hitler. Mais en parlant ainsi, ça ne voulait pas dire que chaque combattant de la résistance devait physiquement lutter contre Adolf lui-même, contre Hitler lui-même. C'est une manière de parler. L'ennemi, c'était Hitler, mais c'est une manière de parler de tout le régime nazi. Et le régime que Hitler a mis en place, c'était une administration basée sur des idéologies qui ont séduit beaucoup. Et puis toute cette administration a été quand même un grand ennemi de la liberté de la France et des alliés. Donc on disait qu'il fallait se battre contre Hitler, mais ce n'était pas forcément lui-même en personne. De la même manière, notre combat, c'est contre le malin, contre le diable, mais c'est contre ses ruses, c'est contre ses moyens d'agir, contre un peu l'administration des institutions qu'il a pu mettre en place dans ce monde qui veulent nous séduire. Et nous apprenons dans la Bible que la force des esprits, des mauvais esprits, en fait, c'est pas tant qu'ils nous chuchotent à l'oreille à longueur de journée, mais c'est la mise en place des idoles d'une société. La Bible relie souvent les idoles avec les mauvais esprits qui sont derrière. Donc les ruses du diable, ce sont des idées qui sont véhiculées par les idoles d'une culture, les institutions, les philosophies de notre époque, qui promettent le bonheur, mais qui en fait sont des mensonges. Un exemple de ça, par exemple, c'était quand Pierre a suggéré à Jésus d'éviter d'aller à Jérusalem, d'éviter le chemin de la croix. C'était un conseil amical, il a juste dit à Jésus, « Ah non, tu ne vas pas faire ça, quand même. » Et Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Nous ne croyons pas qu'à ce moment, Pierre a été possédé par Satan, mais que Jésus a su reconnaître dans la pensée de Pierre, finalement, une tentation venant du diable, cette tentation qui dit, voilà, soigne-toi, prends soin de toi, évite la souffrance, évite le sacrifice, trace ton propre chemin, fais ce qui te plaît. Ça, c'est toujours ainsi que Satan parle quand même depuis même le jardin d'Éden. Et Jésus a su reconnaître cette tentation, c'est pour ça qu'il dit « Arrière de moi Satan ». Et il nous donne ainsi un exemple du combat spirituel. Si vous regardez bien dans notre texte, le mot d'ordre de l'appel, c'est de tenir ferme. Ce n'est pas d'aller faire la chasse aux démons. ou de chercher de savoir sur quel territoire ou quelle région ils dominent pour essayer de les échapper. Mais le mot d'ordre, c'est tenir ferme, c'est répété trois fois. Verset 11, afin de pouvoir tenir ferme. Et puis verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister et tenir ferme. Et encore verset 14, tenez donc ferme. Donc l'appel, c'est simplement tenir ferme dans sa foi, tenir ferme dans son obéissance. Ne pas céder à la tentation, c'est ça le combat spirituel. Et c'est pour ça que j'ai dit que ces versets sont un résumé de ce que Paul vient d'enseigner. Nous avons vu les semaines précédentes des instructions pour la famille, des instructions pour le couple, des instructions pour le travail, des instructions pour une vie d'église. Et le diable veut mettre tout ça par terre, mais nous sommes appelés à tenir ferme et ne pas céder à la tentation. Donc, ce combat spirituel, ce n'est pas une nouvelle activité qu'il nous demande de faire, c'est un résumé de tout ce qu'il vient de dire. Pourquoi c'est difficile de vivre l'unité dans l'Église? Parce qu'il y a un ennemi spirituel. Pourquoi c'est difficile de vivre la vision de la Bible dans le foyer, dans le couple? Parce qu'il y a un ennemi. Pourquoi c'est difficile de vivre la vision biblique de la famille, du travail? Satan, il a mis en place ses idées, ses pensées, ses institutions qui poussent le cœur humain au racisme. Donc on ne veut pas être unis juifs et non-juifs dans l'Église. Mais il nous demande de dépister cette tentation et de tenir ferme. C'est vrai que naturellement le mari et la femme ne veulent pas dans le couple comporter comme l'Évangile implique. Parce qu'il y a des idées, il y a des idolâtries, il y a des institutions qui poussent au machisme ou au féminisme. Mais l'Évangile implique un autre comportement. Il faut résister à ces tentations, à ces systèmes de pensée que le malin a mis en place et tenir ferme contre lui. Donc le combat spirituel, c'est marcher dans la foi, marcher dans l'obéissance, et sachant que le diable veut constamment nous miner, nous détruire. Alors, connaître l'ennemi, c'est reconnaître le malin, comment il agit et comment le résister. Alors, comment on va faire cela? Eh bien, il faut connaître son équipement, le deuxième point. Et Paul nous décrit cette armure chrétienne. Alors, on aurait pu faire une série séparée sur chaque pièce de l'armure, j'imagine. De nombreux pasteurs l'ont fait, et c'est une image parlante aimée, préférée des chrétiens, puisque c'est vrai, elle est forte. Nous n'allons pas nous attarder trop sur chaque élément en particulier. J'aimerais donner quelques remarques pour résumer cet équipement que nous avons, cette armure. Tout d'abord, remarquez, il dit « prenez toutes les armes de Dieu ». Remarquez, ce sont des armes de Dieu. On ne peut pas combattre des problèmes spirituels avec des moyens non spirituel. C'est un peu le grand problème de nos jours. On pense pouvoir régler le problème spirituel avec des moyens humains, que ce soit la médecine ou la psychologie ou l'éducation. Mais il va falloir des armes de Dieu. Si jamais on va être fort et victorieux dans la vie, il faut l'intervention de Dieu et son aide. D'ailleurs, beaucoup de ces pièces de l'armure que Paul cite, ce sont déjà des choses évoquées dans l'Ancien Testament, bien avant l'Empire romain. La casque du salut, la cuirasse de la justice, ce sont des choses qu'on trouve dans le prophète Ésaïe, par exemple, que Dieu lui-même porte, puisque dans l'Ancien Testament, Dieu est parfois présenté comme un guerrier qui défend la justice, qui défend le faible, qui remporte la victoire, un guerrier noble, puissant. Et ce guerrier porte son armure, et donc déjà dans plusieurs passages, dans l'Ancien Testament, on parle de l'armure que Dieu peut avoir. Et on apprend ainsi que quelque part, il partage son armure, ou il donne son armure à son armée, ce qui est un peu normal. Quand on s'engage dans une armée, c'est normalement pas aux soldats de fournir sa tenue et ses armes, mais c'est l'armée qui le fournit. C'est aux soldats de les entretenir, de savoir les manier, de savoir les utiliser. C'est aussi notre cas. Les armes, c'est pas à nous de les créer, ou de les inventer, ou de les procurer. Ce sont des dons de Dieu, mais à nous de savoir les manier, et de les entretenir. Heureusement, l'armure de Dieu, les armes de Dieu, c'est pas comme l'armure de Saül qui voulait donner à David et qui ne lui allait pas parce que c'était trop grand. Mais justement, Dieu fait sur mesure pour chaque chrétien, chacun de ses enfants. Et on peut prendre les armes, elles ne sont pas trop lourdes, pas trop difficiles à manier. Ils sont exactement ce qu'il nous faut pour vivre notre foi. Donc, ce sont des armes de Dieu. Ensuite, remarquez, il dit, encore dans le même verset, « Prenez toutes les armes de Dieu ». Donc, c'est un ensemble, il faut tout. D'ailleurs, le mot grec, c'est « panoplie ». Et une panoplie, le sens d'origine de ce mot, c'est une armure complète, que ce soit de chevalier ou de soldat, une panoplie. Maintenant, le sens du mot s'est élargi pour parler d'un ensemble, un ensemble de choses. Eh bien, il faut cette panoplie pour vivre la vie chrétienne. Il nous encourage à prendre toutes les armes. C'est bien de mettre le casque et les chaussures, mais si on n'a que le casque et que les chaussures, ça laisse quand même des parties vulnérables. Tout ça pour dire qu'il y a un équilibre et un ensemble à maintenir dans la vie chrétienne. On peut être passionné de vérité, mais pas passionné de paix. Et ça, c'est un problème. Il faut être ou passionné de la paix et l'unité, mais pas de vérité. Non, il faut tout prendre, la vérité et la paix. Et puis, comme toutes les armes sont sur différents membres du corps, c'est aussi le rappel que Dieu veut notre tête, il veut notre cœur, il veut nos corps, et c'est l'ensemble qui appartient à Dieu et qui peut le servir, nos pensées, notre cœur, nos mains, nos pieds. Il faut toutes les armes aussi, parce que sinon l'ennemi a exploité une faille, un point de faiblesse. D'ailleurs, c'était toute la force de la stratégie de Napoléon. C'est pour ça qu'il a gagné tant de batailles, tant de victoires, souvent avec des forces moindres que son adversaire. C'est parce que lui, il trouvait le point faible de l'autre armée et il attaquait de toutes ses forces là. Sinon, s'il ne voyait pas un point faible, il provoquait un événement qui pourrait créer un point faible, et là, il attaquait de toutes ses forces. Dites-vous bien que le malin agit ainsi aussi. Mais le conseil de Napoléon était même bon pour nous. Il dit « Un grand capitaine doit se dire plusieurs fois par jour, si l'armée ennemie apparaissait sur mon front, sur ma droite ou sur ma gauche, que ferais-je ? S'il se trouve embarrassé, il est mal posté, il doit y remédier. » Donc plusieurs fois par jour, si l'ennemi attaque à gauche, à droite, devant moi, est-ce que ça me déséquilibre ? Est-ce que ça me... Et donc, c'est ainsi aussi qu'il réussissait à être plus fort que ses ennemis. Et le chrétien peut aussi se poser cette question plusieurs fois par jour. Où est-ce que je suis vulnérable ? Est-ce qu'il y a certains moments de la journée où je cède plus facilement à la tentation ? Est-ce qu'il y a certaines circonstances réunies qui me rend découragé ou qui je suis plus vigilant ? Est-ce qu'il y a certains conseils que je suis en train d'écouter ou de prendre qui laissent un point faible, une faille pour la tentation de l'ennemi ? Eh bien, il faut y remédier et c'est ça, prendre toutes les armes de Dieu. Mais quand on regarde la liste de cette armure, de l'équipement, le plus important, je pense, c'est de voir que, en fait, chaque pièce de l'armure, ce sont des facettes ou des synonymes de l'évangile, de notre salut en Jésus-Christ. Se revêtir de l'armure de Dieu, c'est se revêtir de l'évangile, de la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour moi, et qu'il est mon sauveur, qu'il est ressuscité pour moi, qu'il me protège. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça, c'est l'évangile. Nous étions condamnés, Jésus a pris notre place à la croix, il nous donne une nouvelle vie. Et bien sûr, on peut décliner cet évangile avec plusieurs mots, avec plusieurs images, mais si vous regardez chaque pièce de l'armure, c'est très lié à l'évangile, l'évangile de base. Parce que le diable, il a deux moyens de nous faire, de nous embêter en tant que chrétiens. Il a des tentations, il a des accusations. Des tentations et des accusations. Les tentations, la manière qu'il nous tente, c'est de dire, c'est le péché qui nous dit, écoute, moi, ce péché-là, je suis un meilleur sauveur pour toi que Jésus. Je suis plus intéressant, je rends plus de bonheur, je rends plus de, d'épanouissement que Jésus. C'est ce que le péché nous dit, ce que le Satan nous dit. Donc c'est une tentation, je suis un meilleur sauveur pour toi que Jésus. Mais quand on sait ce que Jésus a fait pour nous à la croix, quand on connaît l'évangile, en dépit de cette tentation, c'est non, ce péché-là, ça ne va pas m'apporter plus de bonheur, plus de salut, plus de bien-être, plus de sécurité que Jésus l'a fait pour moi à la croix par sa mort et sa résurrection. Donc les tentations de Satan sont vaincues en revenant à l'évangile. L'autre manière que Satan nous met sur la touche, c'est par des accusations. Il dit « t'es nul, regarde, encore cette semaine t'as chuté, t'es tombé, t'es pas digne de l'amour de Dieu ». Il nous accuse et il nous garde notre culpabilité. Et là encore, la manière de vaincre ces accusations, c'est par l'évangile, c'est dire non, oui, je suis coupable, mais en Christ, je suis juste, en Christ, je suis parfaite, en Christ, je suis quelqu'un de bien. Si Satan m'accuse, il me fait que rappeler que Christ, j'ai besoin de Christ et Christ me sauve parfaitement. Donc se revêtir de l'armure chrétienne, c'est, je pense, c'est une image de l'appropriation constante qu'il nous faut avoir de l'évangile et de ses vérités, de ses implications. Être revêtu, c'est le porter constamment. Un soldat, quand il part à la guerre, il garde son armure sur lui en permanence. De la même manière que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de garder l'évangile sur nous, qui protège toutes les parties de notre pensée, de notre corps. L'évangile, c'est notre meilleure défense et ce serait notre meilleure attaque. Donc maintenant, voyons un peu plus précisément quelques-uns de ces éléments de l'équipement. Juste quelques remarques, par exemple le verset 14, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », pour comprendre un peu l'habillement du soldat romain, ils étaient plutôt dans les robes, mais ces robes devaient être ramassées, attachées dans une ceinture lorsqu'ils voulaient partir à l'action. Donc il y avait quand ils étaient un peu au repos, ils n'avaient pas besoin de cette ceinture, mais quand il s'agissait d'agir, de courir, de marcher, d'attaquer, eh bien il fallait mettre la ceinture, réunir les robes, les pans de la robe dans la ceinture. Donc c'est normal, il commence par ça, il dit si vous voulez être prêt à l'action, si vous voulez démarrer, si vous voulez, l'essentiel c'est d'avoir la vérité. Et ça c'est fort, la vérité, il y a des vérités qu'il nous faut, qui nous rend prêts à l'action, prêts à vivre notre foi, de savoir oui, Jésus est ressuscité, mes péchés sont pardonnés. Et c'est ça qui nous rend aptes à servir, à marcher et de vivre dans cette vérité, pas dans forcément nos ressentis, pas dans ce qui m'est plus pratique, ce qui me convient, mais qu'est-ce qui est vrai? C'est ça le souci du chrétien, ça commence par là. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai. Et puis, cette vérité, c'est la vérité sur Jésus-Christ, c'est la vérité sur la nature humaine, et puis ça nous pousse à vivre dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la vérité. C'est ça qui nous rend prêts à l'action. Bon, après, il parle de la cuirasse de la justice. Quoi, la cuirasse, justement, ça couvre des organes vitaux, ça couvre le cœur. Et il dit que c'est la cuirasse de la justice qui nous rappelle encore l'évangile, qu'en Jésus-Christ, nous sommes couverts de sa justice. Et c'est ce qui nous protège contre les accusations du diable. C'est ce qui rassure notre cœur, ce qui protège notre cœur. Je suis couvert d'une justice qui n'est pas la mienne est tachée et infaillible, mais je suis couvert de la justice parfaite de Christ. Voilà ce qui peut nous protéger du découragement ou de la culpabilité qui pourrait nous paralyser. Après, il parle des chaussures. Hein, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On dit que l'armée romaine, vous connaissez les chaussures de l'armée romaine, du soldat romain, c'est lacets, les cuirs qui étaient un peu lacés jusqu'à sur les jambes, sur les mollets. Tout le monde connaît ça. Eh bien, c'était une force de l'armée romaine, leurs chaussures, ça leur donnait un avantage, notamment sur les autres. C'était une avancée technologique à l'époque, ça semble simple aujourd'hui. On préfère nos Nike et tout ça, mais déjà ce qu'ils avaient, c'était un pas de plus. qu'avaient les autres, ce qui leur permettait de courir de grandes distances, d'avancer rapidement. Ils mettaient des clous sur le sol là, de la chaussure, et ça les protégeait, ça les gardait, ça avançait. Donc, nous, nos chaussures, c'est le zèle que donne l'Évangile, c'est ce qui nous permet de parcourir de grandes distances pour le Seigneur, et c'est-à-dire la mission, le partage de l'Évangile. Parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque, l'offensive. Et il rappelle bien sûr que c'est l'Évangile de paix. Encore pour qu'on soit bien clair, que c'est pas ce qu'on veut pas, c'est provoquer des violences, des tensions, des conflits, mais le message que nous avançons et que nous portons au monde, c'est un message de paix, l'Évangile de paix. Ensuite, le bouclier. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Alors, vous avez peut-être l'image du bouclier romain en tête, c'est pas le petit rond, c'est le grand rectangle qui pouvait aller de la tête jusqu'aux pieds. Vous connaissez la tactique de la tortue où ils mettaient tous ces boucliers en formation, mais ça faisait quelque chose de très fort, très imprégnable. Le bouclier protégeait notamment des flèches, et à l'époque les flèches trempées dans le bitume, allumées avec du feu, et ça qui faisait des grands dégâts. Ces flèches, c'est très enflammé, d'où vient l'image ici. Ces boucliers avaient parfois un pot de cuir qui était mouillé et qui pouvait éteindre les flammes de la flèche. Donc il prend cette image pour parler de la foi. La foi, c'est la foi dans l'Évangile, la foi en Christ, la foi dans sa parole, la foi dans ses promesses qui nous protège de la tête aux pieds, que les traits, les accusations, les tentations de l'ennemi ne peuvent pas pénétrer. Encore le casque du salut. Là encore, on voit bien que chacun est lié quand même à l'Évangile, c'est le casque du salut. Le salut, c'est notre salut en Jésus-Christ, c'est ce qui protège nos pensées, la tête. Et enfin, il y prend l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Il avait dit en chapitre 1 que la parole de la vérité, c'est l'Évangile de votre salut. Chapitre 1, verset 13. Donc, il nous demande de prendre toute la parole, mais la parole de Dieu, le cœur du message, c'est encore l'Évangile, ce que Christ a fait pour nous, et c'est ça qui permet de se défendre contre les attaques, de parier les attaques de l'ennemi, et aussi partir à l'offensive avec le message de l'Évangile. Donc vous voyez, je pense que c'est ça qui est fort, que finalement c'est différentes facettes, différentes manières de parler de notre grand salut en Jésus-Christ, de l'Évangile, et de pouvoir se couvrir constamment de ça. Hop, c'est l'autre. Voilà, c'est ce qui nous protège des tentations et des accusations du diable. Et c'est ça le combat, c'est tenir ferme en se rappelant constamment ce que Jésus a fait pour nous. Enfin, aussi ce qui peut nous aider, c'est connaître l'issue du combat, l'issue de la guerre. Ce qui est exceptionnel pour le combat chrétien, pour la guerre dont nous parlons ce matin, c'est que l'issue du combat est déjà décidée. Et cela, nous voyons un peu dans le premier verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Christ a une force toute puissante. Et en fait, il va pas se répéter, mais il avait dit en chapitre 1, versets 18 et 22, en parlant de cette puissance, que Dieu l'a déployé en Christ, chapitre 1, verset 20, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, tous les ennemis sont vaincus, sont déjà sous les pieds de Christ, dans un sens. Jésus a vaincu les forces du mal. Ça, c'est énorme pour comprendre ce combat spirituel et pour ne pas se décourager. Ce n'est pas à vous de remporter la guerre, c'était déjà fait par Christ. Et donc aujourd'hui, on se fortifie dans le Seigneur, pas dans ses propres forces, dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. C'est une bataille gagnée d'avance. Imaginez l'attitude que ça donne aux soldats de savoir que c'est une bataille gagnée d'avance. C'est pour ça que le combat chrétien est un bon combat, un combat de paix, un combat de joie, un combat d'amour, parce que c'est gagné d'avance. On connaît déjà l'issue. La semaine dernière, c'était encore le date anniversaire du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. Lors du débarquement en Normandie, à partir de ce moment, tout le monde savait qui allait gagner la guerre. Les Alliés, une fois qu'ils ont établi cette tête de pont, une fois qu'ils ont remporté cette bataille-là, ils avaient des meilleures ressources, des meilleurs moyens, meilleurs armements. Tout le monde savait quelle sera l'issue du combat. Ça n'empêche pas qu'il y avait encore des batailles. Il y avait encore un besoin de discipline, de combat pour les troupes qui ont traversé notamment la France en allant vers l'Allemagne. Mais il y avait parmi les Alliés une effervescence, une joie, une certitude. On savait qui allait gagner. Et nous vivons un peu dans ce temps-là. La victoire décisive a été remportée à la croix. Satan est vaincu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de discipline ou d'action de la part des troupes, mais on sait l'issue. Ça crée une certaine ambiance parmi les chrétiens, une ambiance de joie, de reconnaissance, d'espérance qu'on ne va pas trouver dans les autres religions. Parce que c'est ça la grande différence entre l'évangile, la foi chrétienne et les autres religions. Les autres religions, ils ne peuvent pas vous dire l'issue du combat. En tout cas, pour l'individu, il ne sait pas s'il va gagner le paradis ou pas. Et donc tout ce qu'il fait, c'est pour essayer de déterminer une issue de sa vie favorable. Mais quand on ne connaît pas l'issue du combat, ça crée la crainte, ça crée la peur, ça crée le stress, ça crée des animosités envers les autres. Et on voit bien, c'est le problème des autres religions. Et on voit bien que les religions, oui, ça pousse souvent aux violences, aux conflits, aux guerres, parce que chacun doit essayer de mériter par ses actions une issue favorable. C'est ce qui explique le djihad et le fanatisme, l'intégrisme, c'est parce qu'ils sont en train d'essayer de mériter en quelque sorte le paradis. Mais quand ils doivent le mériter, forcément, ça pousse au fanatisme ou bien ça pousse à voir tous les autres comme une menace à sa propre foi. Ça pousse à la peur. La grâce est une menace parce que je dois mériter mon salut. Donc, quand on ne sait pas si l'issue est... Quand on ne connaît pas l'issue, ça crée une ambiance, ça crée une attitude qui est néfaste à l'homme, à son cœur, au monde. Mais quand on connaît l'issue, que c'est déjà remporté d'avance, que la victoire est acquise et nous est offerte par grâce, c'est ce qui va démarquer les chrétiens de tout le reste. On se rappelle que Jésus a remporté la plus grande bataille, non pas en tuant, mais en mourant. Jésus a remporté la plus grande bataille sur la mort, sur notre péché, non pas en tuant, mais en mourant. Et les chrétiens qui suivent ce Jésus, ils sont prêts eux aussi à se sacrifier, à vivre dans l'amour, mais tout en annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui annonce la défaite du malin et de toute son œuvre. C'est vrai que dans la Bible, il y a les deux premiers chapitres de la Bible et les deux derniers chapitres de la Bible où il n'est pas question de conflits, de guerres, de problèmes, tout ça. Mais sinon, tout le reste de la Bible, c'est des problèmes, c'est des guerres, c'est des conflits parce que voilà, le péché s'est introduit dans le monde, a créé une tension. C'est Dieu lui-même qui a fait la déclaration de guerre contre le mal, contre le péché, qui détruit sa belle création, dont nous avons souvenu ce matin, que Dieu a créé. Tout était bon. Et aujourd'hui, on ne voit pas que tout est bon. Au contraire, on voit beaucoup de guerre. Mais c'est Dieu qui fait la guerre contre le mal destructeur. Et il nous appelle à le suivre dans la victoire. J'aimerais terminer ce message en vous lisant un petit extrait du voyage du pèlerin. Un moment, ce pèlerin, il reçoit ses armes, comme les armes chapitre 6, mais il rencontre le malin. Ça peut nous encourager au courage et à ne pas fuir. Donc, quand un chrétien fut venu jusqu'à la vallée de l'humilité, il s'y trouva dans de grandes détresses, car à peine y était-il arrivé qu'il aperçut de loin le plus grand ennemi des âmes, nommé Apollyon, autrement destructeur, qui venait fondre sur lui. Le chrétien, à son approche, se trouva saisi d'une si grande frayeur qu'il se demanda s'il devait s'enfuir ou résister. Mais ayant réfléchi qu'il n'était point armé par derrière, il pensait que ce serait donner un grand avantage à son ennemi que de lui tourner le dos, parce que de cette manière, il pourrait aisément être percé de ses dards enflammés. C'est pourquoi il prit la résolution de l'attendre de pied ferme, car, disait-il en lui-même, il s'agit de ma vie. Ainsi, le meilleur est d'aller en avant et de combattre courageusement. Effectivement, le dos dans, dans notre texte n'est pas protégé. Donc, abandonner le combat, retourner en arrière, céder à la tentation, c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne technique, c'est d'aller combattre courageusement, faire face, mais le message est rempli d'espérance, ces armes sont invincibles, ces armes sont, nous conduisent à la victoire. Alors, courage et combattez. Nous allons prier.